Bonjour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver. On est nombreux, ça fait plaisir ça aussi. Alors, Pâques. Pâques, c'est des bonnes nouvelles hein, de ce qu'on a pu, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu entendre. Ce sont des très bonnes nouvelles. Et j'aimerais que l'on prenne tranquillement un moment pour s'associer aux Juifs pour comprendre finalement ce que eux aussi fêtent. Puisque Pâques est avant tout une fête juive dans laquelle nous avons pu rentrer. Les Juifs se rappellent de ce que Dieu a fait pour eux au temps de Moïse. Le Seigneur leur a dit: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. La question qui se pose, c'est qui a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alors on pourrait dire c'est Dieu, puisque c'est ce qui était juste avant. Mais j'aimerais, vous connaissez un petit peu, hein, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble quelques passages. Dans Exode 23, versets 20 et 21, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Dans Ésaïe 43, au début du verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel, et on continue au verset 25, c'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans Juges 2, verset 1, Or, l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Dans Nombre 20, au début du verset 16, Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Dans Ésaïe 43, verset 11, C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et dans Ésaïe 63, versets 7 à 9, Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit: Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant ma face, qui est devant sa face, les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous avons vu avec ces passages que seul Dieu sauve. Seul Dieu peut, s'il le désire ou pas, pardonner les péchés. Celui qui s'est incarné pour mourir pour nous est Dieu, envoyé de Dieu, pour sauver le peuple d'Israël et racheter des gens de toutes les nations par son sang. C'est pourquoi nous pouvons nous associer à la sortie d'Égypte du peuple juif. Maintenant qu'on a vu qui, on va voir pourquoi. Pourquoi le Seigneur a sorti d'Égypte les enfants d'Israël? Tout d'abord, c'est pour habiter au milieu de son peuple. Dans Exode 29, versets 45 et 46, il nous est dit: J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. C'est important de voir que le cœur de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Si on pense que Dieu reste loin et que nous avons à nous débrouiller, nous n'avons pas compris le sens même de ce que Dieu a fait, ne serait-ce que juste avec Israël. S'il l'a fait avec Israël, à combien plus forte raison, nous qui avons été rattachés à Jésus, eh bien Jésus vit au milieu de nous. Combien Dieu vit au milieu de nous, par sa présence en nous, et par sa présence aussi qui nous unit, par son esprit qui nous unit. Le deuxième point, c'est pour mettre son peuple à part, pour le rendre saint. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Nous est-il écrit dans Lévitique 11, verset 45. C'est un travail que le Seigneur a eu dès le départ. Son intention était de mettre à part son peuple afin qu'il soit saint, de le purifier. Et tout ce qui était donné à Moïse était dans cette optique-là, afin de donner quelque chose de profond, où lui habite, Dieu habite, et où le peuple peut marcher en sainteté. Également, il nous est dit que c'est pour les conduire vers la demeure de sa sainteté, sur la montagne de son héritage. Dans Exode 15, il nous est dit, « Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. » Puis au verset 17, « Tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. » La promesse faite pour Israël est extraordinaire. Parce qu'on pourrait croire que du coup, Israël a eu qu'une partie, peut-être quelque chose de... un petit morceau du Seigneur. Mais comme on voit que c'était lui-même, Dieu lui-même qui est venu habiter, Dieu lui-même qui est venu donner qui il était, Dieu lui-même qui les a fait sortir, et que le Fils était déjà à l'œuvre, avant même qu'il vienne pour nous racheter complètement, pour ouvrir l'alliance faite à Abraham, à toutes les nations, comme il l'avait promis à Abraham. Cette alliance qu'il avait offerte à Moïse, eh bien, il l'a ouverte à tous ceux qui croient en Jésus, en sa mort, en sa résurrection. Mais la question un peu qu'on pourrait se poser, c'est que veut dire sortir d'Égypte ? On a beaucoup parlé de cette thématique pendant de très nombreuses années, et c'est une thématique récurrente parce qu'elle est essentielle. L'Égypte veut dire rétréci, ce qui est fermé, ce qui est restreint. Dans la pensée de l'Égypte, c'est quelque chose d'auto-centré. C'est quelque chose qui est nombriliste. Pharaon voulait garder le peuple d'Israël afin qu'il le serve. Et Dieu a demandé à Pharaon, par Moïse, de libérer son peuple afin qu'il le serve lui. Souvent, on ne garde que la première partie. Laisse aller mon peuple. Mais il y a une suite. Il n'y a pas un point à ce moment-là. Afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. On voit qu'il n'y a pas d'entre deux. Et Jésus va dire dans Matthieu 6 qu'on ne peut servir deux maîtres. Soit Mammon, soit le Seigneur. L'esprit de Mammon, c'est l'esprit de l'Égypte. C'est un esprit fermé, restreint, rétréci. Un esprit centré sur soi-même. C'est être concentré sur ses propres besoins, ses envies, ses projets, ses passions, ses désirs. C'est de faire sa personne son Dieu. Et en faisant sa personne son Dieu, nous servons Pharaon. Vous allez me dire, mais et mes besoins alors, j'ai quand même des besoins. Mais c'est légitime du coup de demander au Seigneur. Et mes besoins alors ? La réponse du Seigneur est pourtant claire dans Matthieu 6. De quoi t'inquiètes-tu ? De quoi nous inquiétons-nous ? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Si vous connaissez la pyramide de Maslow, il est marqué que le premier niveau, ce sont les besoins physiologiques, notamment se nourrir, boire, se vêtir. Mais Dieu nous dit qu'il y a plus dans la vie que la nourriture. C'est quand même marrant, ça. Pharaon veut nous faire croire que le premier palier, ce sont nos besoins physiologiques. Et la parole nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on pense à Pâques, on pense à la mort de Jésus qui nous libère du péché et de la mort, du fait qu'il a payé pour nous la peine que nous méritions, car nous avons enfreint la loi de Dieu. Ça nous rappelle ce que dit l'apôtre Paul à l'église de Galates au chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand on prend ce verset en dehors de son contexte, on peut largement l'associer au joug de l'esclavage en Égypte. Quand on le prend dans son contexte, il est intéressant de se poser la question, mais de quelle servitude est-ce que Paul parle? Il parle de la loi qui peut être utilisée pour un autre but que celui donné initialement. Il parle de se mettre sous un joug pour se justifier soi-même, d'essayer d'être suffisamment méritant pour Dieu. Si je peux mériter le salut en Jésus, alors Jésus est mort pour rien. Mais parce que je ne peux mériter le salut, Jésus est venu mourir pour moi. Mais alors c'est quoi le but de la Torah? C'est quoi le but de la loi? Observons ce qu'un homme selon le cœur de Dieu, aussi connu par le nom de David, le roi David, dit de la loi de Dieu. Au psaume 119, le premier verset, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah de l'Éternel. » Il dit plus loin, verset 97, « Combien j'aime ta Torah, ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 102, « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. » Et au 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Tout le chapitre 119, qui est très long mais qui est extraordinaire, nous parle de l'attachement de David à la parole de Dieu, de son attachement à la loi, et qu'il ne veut surtout pas s'en séparer. Et il demande même à Dieu, « Mais permets que je ne m'en sépare jamais, qu'elle soit toujours à mes côtés. » Il y a cette demande incessante parce qu'il a compris que sa parole, la parole de Dieu, est une lampe à ses pieds à lui et une lumière sur son propre sentier. La parole de Dieu, sa loi, sa Torah, nous est donnée pour nous enseigner, car Dieu veut nous enseigner, afin qu'elle puisse éclairer notre route. Si je place la loi comme un substitut au salut, que seul Dieu peut me donner, j'utilise la parole de Dieu exactement comme le diable dans le désert quand il tente Jésus. Je vais donc utiliser la parole de Dieu pour mes propres intérêts. Au contraire, elle m'est donnée afin de m'instruire, de m'accompagner chaque jour. Cette parole m'encourage à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Autrement dit, à comprendre, à chercher à comprendre qui est Dieu. Chercher à le connaître, à essayer de comprendre sa pensée, comment il fonctionne et comment il exerce sa justice. Mon cœur, finalement, du coup, va être de chercher les projets du Seigneur. Mais Seigneur, quels sont tes projets? Le monde va mal. Tout est catastrophique. Seigneur, quels sont tes projets? Tu nous as laissés en attendant ton retour? Mais que devons-nous faire? Qu'est-ce que toi, tu es déjà en train de faire? Notre prière doit être, Seigneur, je ne veux pas me séparer de toi. Je ne veux pas non plus me séparer de ce que tu fais. Je veux faire tes œuvres. Je veux faire ta volonté. Lisons ce que Paul dit à Timothée au sujet des projets du Seigneur. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Souvent, on se focalise sur le verset suivant. « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Mais j'attire votre attention sur tous les hommes. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Notre part, donc, est de nous dissocier de nous-mêmes et de nous tourner vers les autres et de participer à ce que Dieu fait. Sauver l'humanité et l'amener à la connaissance de la vérité. C'est là le véritable but de notre sortie d'Égypte. Le véritable but de notre salut. Nous avons été délivrés de notre nombrilisme pour aller et être des témoins. Pour manifester Christ en nous. C'est pour ça que notre espérance ne réside pas uniquement en quelque chose que nous ne voyons pas. Notre espérance réside dans le fait qu'il transforme nos cœurs afin que nous soyons des véritables témoins pour le Seigneur. Si mon cœur n'est pas changé, il faut que je me pose la question. Seigneur, à quel moment est-ce que je t'ai oublié? À quel moment est-ce que finalement je suis encore en Égypte, dans ma conception? Notre part est de nous associer à la délivrance. Et nous avons le choix. Le choix de rester en captivité, de nous remettre face à nos anciens liens, ou d'embrasser la liberté qui est en Christ, et d'être esclave de la justice. Être des témoins, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies, afin que ce que nous sommes soit beaucoup plus parlant que ce que nous disons. Alors ce que nous dirons aura plus d'impact. Un point central, c'est mettre en pratique la parole. Jacques va nous enseigner que si quelqu'un est au contact de la parole, il est comme quelqu'un qui se voit dans un miroir et qui repart en oubliant ce qu'il avait vu. Et il en devient très malheureux. Notre besoin de mettre en pratique la parole est central. Juste au moins pour que nous vivions et que notre témoignage soit véritable. Mais alors on peut se dire, mais comment mettre toute la Bible en pratique? C'est impossible. Il faudrait plusieurs vies pour la mettre en pratique. Pas de panique. Pas de panique. Un pas après l'autre. Souvenons-nous qu'il a été écrit tout à l'heure que Dieu nous conduit. Que Dieu nous met à part. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu vient habiter au milieu de nous. Alors si Dieu nous conduit, si Dieu nous met à part, c'est bien qu'il accepte que nous marchions dans un processus. Ne croyons pas que nous sommes déjà arrivés dès la première étape. Souvent, surtout quand on est enfant de chrétien, je l'ai connu un peu pour ma part, la notion même du baptême nous paraît être un palier énorme. Mais le baptême, c'est l'étape numéro une. C'est commencer la course quelque part. C'est valider devant tout le monde qu'on a cru et qu'on veut marcher avec le Seigneur. Souvent, quand on est enfant de chrétien, on peut même se dire, mais en fait, le baptême, il faut quelque part que je le mérite. Et je vous encourage, parents, grands-parents, à faire attention à cet enseignement, parfois sur le baptême, qui, même s'il n'est pas dit comme ça, peut manifester quelque chose de lourd, un joug sur les épaules des enfants et des petits-enfants. Le baptême est un point de départ. la course commence. Le baptême, c'est l'association de notre vie à Christ. Notre association à la Pâque, lorsque le peuple juif a mangé l'agneau sans en laisser une miette. C'est une association à ce que Dieu fait. Mais lorsque les Juifs avaient mangé l'agneau, ils étaient encore dans les maisons, ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, ils n'avaient pas traversé la mer, ni le désert, ils n'étaient même pas encore dans le pays promis. Parfois, nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Mais l'encouragement, c'est de marcher avec le pays promis en vue. Nous l'avons déjà par la foi. Nous marchons en direction de notre destinée, qui est l'accomplissement de nos vies, de ce que le Seigneur a donné pour chacun d'entre nous. Le terme perfection, souvent qui est utilisé, c'est le terme accomplissement. Jusqu'il y a peu, il ne voulait pas forcément dire le terme que nous avons aujourd'hui, parfait, parfait, parfait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le mot parfait. Quand on dit parfait, c'est qu'il n'y a rien qui fait défaut. Mais le sens initial du mot parfait, c'est accompli. Tout est accompli en Jésus. Et la course que nous menons chacun, comme dit Paul, c'est une course vers l'accomplissement de notre vie. Chacun pour sa part, chacun avec les dons, les talents qui lui sont donnés, unis à notre frère, notre sœur, nous marchons une course ensemble et individuelle. Et nous marchons dans l'accomplissement de l'épouse afin qu'elle se prépare pour être sans tache ni ride devant son Seigneur, devant son époux. Cette marche est une marche d'obéissance. À chaque fois que nous marchons dans l'obéissance, nous participons à la confection du manteau de l'épouse. Je n'ai plus le passage en tête, mais dans Apocalypse, vous verrez, c'est marqué que l'habit dont l'épouse se revêt, c'est le fin lin qui sont les œuvres des justes. Notre part est de marcher dans l'obéissance en faisant confiance au Seigneur. Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Aujourd'hui, où en es-tu ? Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que le Seigneur nous met à chacun à cœur de faire ? Comment est-ce que je peux rendre service à quelqu'un ? Qu'est-ce que le Seigneur me montre autour de moi ? Où est l'injustice pour laquelle il veut me voir me lever ? Où est la souffrance pour laquelle il veut me voir pleurer ? Où est l'affamé qu'il veut que je nourrisse, l'assoiffé qu'il veut que je donne à boire, le dévêtu qu'il veut que j'habille, le cœur brisé pour lequel il veut me voir à ses côtés. Cette dynamique, c'est une prière que nous pouvons faire au Seigneur chaque jour. Seigneur, montre-nous, ouvre mes yeux. Je sais, Seigneur, que tu me conduiras. Le Seigneur nous encourage à remettre nos projets en lui, et il nous conduira. Toutes ces choses que nous pouvons faire, Jésus a dit que toutes les fois où nous avons fait ces choses à l'un de ses plus petits, de ses frères, c'est à lui qu'on les a faites. Ne prenons pas notre salut pour un acquis de sécurité, un ticket pour le ciel. Ne craignons pas non plus pour notre salut, soyons assurés qu'il est le garant de mon salut et que ma part est de rester accroché à lui. Si je commence à avoir peur pour mon salut, je vais commencer à regarder mon nombril parce que la peur me paralyse. Comment est-ce que je vais pouvoir sortir à l'extérieur, aller voir un voisin, un collègue, un ami, un frère, une tante, un neveu, si je ne suis même pas certain de mon salut? Mon salut est en Christ. Il a tout donné. Je crois qu'il a tout payé. Est-ce que je fais des erreurs ? Oui. Quelle est ma part ? Me repentir ? Et souvent, le Seigneur nous montre autre chose dans la foulée. C'est payé. Il nous apprend la sainteté. Il nous apprend la pureté. À mesure qu'on s'approche de lui, à mesure, notre goût pour les choses de ce monde pâlit. Si je cherche par mes propres efforts à me détourner de tout ce qui est du monde, je vais me faire une bulle et je vais me protéger et je ne laisserai personne entrer, même pas les gens du monde. Notre frère tout à l'heure, du coup, a bien précisé que Jésus mangeait avec les pécheurs, avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées. Jésus ne s'est pas gardé une petite bulle sainte. Non, il savait qui il était. Et il est allé vers les gens qui avaient besoin de lui. Notre part, notre encouragement, c'est de suivre ce que le Seigneur a fait. Comme il vit en nous, nous en sommes maintenant capables. Et si je crains, eh bien Seigneur, je te fais confiance. La semaine dernière, un frère d'Aix-en-Provence m'a raconté qu'il était aumônier en prison. C'est, je crois, peut-être la personne la plus timide que j'ai jamais vue. Et aussi peu sûre d'elle, de lui. Il me disait que la première fois qu'il est arrivé en prison, il s'est demandé ce qu'il faisait là-bas. Si, Seigneur, c'est pas pour moi, ça, c'est pour quelqu'un d'autre, en fait. Tu veux que je sois là, tu veux, mais en fait, ils vont me trucider, les gars. Il a demandé à ce que... Parce qu'en fait, ça marche comme ça dans les prisons. Tu ne peux pas venir de toi-même, il faut que quelqu'un te demande. Donc, quelqu'un l'avait demandé. Il était entré. Et à mesure qu'il est découragé de lui-même, à mesure qu'il veut abandonner, le Seigneur l'encourage instantanément et lui confirme que sa place est là-bas. S'il se repose sur ses propres qualités, il n'irait jamais. Mais s'il y va par obéissance, il voit ce que le Seigneur fait. Un de ses témoignages qu'il a vécu dernièrement, un détenu l'avait appelé, donc il vient. Il faut savoir que les détenus... Il faut savoir que du coup, en fait, l'aumônier a une clé de prison qui ouvre toutes les cellules. La responsabilité, elle est lourde. Donc imaginez du coup le frère qui est pas très serein par lui-même et qui avec sa clé, qui ouvre la cellule. Et là, il voit un grand gaillard, un immense gaillard qui est sur le lit superposé qui lui dit « En fait, je te veux plus, dégage ». Il se pose la question, d'accord, ok, bon, tant pis, je ne comprends pas. Et là, c'est celui qui est en dessous, qui discrètement lui dit, psst, non, reste là. Parle-moi de Dieu. Tu veux que je te parle de Dieu, de Dieu, moi je suis chrétien, moi je vais te parler de Jésus, moi tu vois. Parle-moi de Dieu. Tu veux pas un imam, c'est sûr ? Parle-moi de Dieu. Là, il se pose la question et il commence à dire, mais oh, qu'est-ce que j'ai bien lui dire ? Et là, il commence à essayer de baragouiner quelque chose, à essayer de faire un petit baratin pour essayer de le convaincre de quelque chose par rapport à l'islam, par rapport... Et là, il entend le Seigneur qui lui dit, parle-lui de moi. Il s'est arrêté et il lui a partagé son témoignage. Comment le Seigneur l'avait amené à la vie, ce que le Seigneur avait fait pour lui, tout ce qui avait changé dans sa vie. Et elle est repartie de cette prison en se disant, Seigneur, à chaque fois, je suis découragé, mais toi, tu me réencourages. Toi, tu me donnes, en fait, du coup, de quoi encore aller de l'avant. Rappelons-nous que dans toutes les situations où le Seigneur nous emmène, dans tous les endroits qui peuvent nous effrayer, dans des territoires qui peuvent être semblables à la mort, semblables à des endroits qui sont dramatiques, où il y a la souffrance, la guerre, la maladie. Eh bien, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Dieu est en Christ. Christ est en nous. Il nous conduit par son amour. Il nous conduit par son esprit. Il nous conduit. Nous sommes entre ses mains. Tout comme le Seigneur a conduit son peuple, malgré ses erreurs et ses égarements, c'est le Seigneur qui construit son Église et qui nous guide sur son chemin. Apprenons donc à lui faire confiance afin qu'il soit glorifié par nos vies. Soyez bénis. Je vous propose de prier un instant avant de passer à la suite. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi. Nous reconnaissons tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Et quand nous sommes infidèles, Seigneur, toi, tu restes et tu demeures fidèle. Seigneur, tes projets s'accompliront, quoi qu'en dise l'homme. Seigneur, apprends-nous à être simplement accrochés à toi, attachés à toi, attachés à ta parole. C'est toi seul qui peux nous sauver. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Et comme c'était prié tout à l'heure, tu es le tout accompli pour nous. Tout accompli. Nous n'avons rien de plus à faire. Nous n'avons qu'à marcher en toi et à pratiquer les œuvres de justice. Ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Seigneur, montre-nous le chemin afin que chaque jour nous puissions être à ta disposition, Seigneur. Merci pour l'assurance du salut. Merci Seigneur parce que tu reviens bientôt. Et si nous pensons que tu retardes ton retour, c'est afin que le plus grand monde soit sauvé, le plus grand nombre, afin que tous, le plus possible, Seigneur, viens nous encourager à ce que nous marchions dans cette prière-là. Seigneur, nous voulons prier, pour que tous parviennent à la connaissance de toi, la connaissance de la vérité, parviennent au salut en toi, par la foi. Merci Jésus. Sois béni. Amen.